Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. On ne s'y retrouve plus forcément car le soleil se couche de plus en plus tôt à Paris. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Foot. En attendant de retrouver une voix correcte, veuillez m'excuser, le mercure baisse car c'est déjà l'automne. En Europe, l'heure est venue de refermer la fenêtre internationale bien sûr. Il y a les feuilles qui tombent des arbres et les joueurs qui, eux, ne veulent pas chuter de la feuille de match, voire disparaître carrément des listes pour le Qatar. Car oui, qui dit automne en 2022 dit aussi Coupe du Monde. Le continent 1, le Brésil 8. C'est ainsi qu'on pourrait résumer les récentes déroutes du Ghana et de la Tunisie. Face à la Seleção de Neymar, nos spécialistes du football africain ont-ils pris un coup de froid devant ces résultats? On va leur demander. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Hugo, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Ben un peu comme vous, un peu Barry White là cet après-midi.
D'accord. La voix, on est parti pour un tour de champ.
Ouais, mais je serais pas contre. Hein. On peut poser la question à nos collègues, ils me connaissent, hein, j'aime bien pousser la chanson.
Ouais, on a peut-être une carrière insoupçonnée et on pourra.
On va en reparler après.
On pourra signer des tubes et puis les oublier, changer d'amis, en acheter peut-être de nouveau. Voilà, on va se transformer en crooner de RFI. Bonjour Patrick Julien.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes en pleine forme, vous, en pleine voix.
En pleine forme, plus que certains joueurs de l'équipe de Tunisie que j'ai vu hier soir.
Ouh, n'en dites pas plus. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour, en forme comme les joueurs de l'équipe d'Algérie que j'ai vu hier soir contre le Nigeria.
Hier, ce sont les Aigles de Carthage, on va revenir à eux, qui, impuissants, ont vu Neymar et compagnie répéter leur gamme dans une ambiance qu'on va qualifier de manière neutre de particulière au Parc des Princes. Il faudrait expliquer à certains supporters tunisiens qu'en matière de football, la banane n'est jamais, au grand jamais, un fruit de saison. Ailleurs, sur le vieux continent, point d'affiche de gala, mais de la compétition. À Braga, au Portugal, l'Espagne est allée arracher un ticket pour le printemps. Là au moins il fait chaud, on ne s'arrache pas la voix. Le printemps c'est la finale à 4, le Final Four de la Ligue des Nations. Est-ce de bon augure avant le Mondial? On en parlera tout à l'heure. Mais il me reste, avant d'en finir avec ce sommaire, un dernier invité à introduire. Il s'appelle Séga Diallo. Bonjour Monsieur Séga.
Bonjour Hugo et bonjour à l'équipe.
Vous êtes un compagnon de route de l'émission, les auditeurs vous connaissent. Un ami, vous êtes aussi le vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. N'est-ce pas?
Oui, effectivement.
Donc il y aura deux versants de Séga Diallo, deux facettes de Séga Diallo dans cette émission. L'ami, le passionné de foot, le commentateur, et puis il y aura le dirigeant du football guinéen qui devra répondre, qui sera assailli, devrais-je dire, de questions dérangeantes tout à l'heure. J'espère que vous êtes prêts.
Il n'y a aucun problème.
C'est Dr Séga et Mr Diallo.
Exactement. Oh ouais. Rendez-vous tout à l'heure pour la facette sombre de Séga Diallo. Radio Foot, préparé par Pierrot Guérin, David Finzel et Laurent Salerno, c'est parti. Mais avant, vous l'aurez peut-être reconnu, quelques notes de l'hymne iranien. L'Iran affrontait le Sénégal hier à Vienne, en Autriche. Score final un partout, c'était un amical, préparation pour la Coupe du Monde. C'est le contexte en fait de cette rencontre qui nous intéresse aussi à Radio Foot. L'Iran est le théâtre, vous le savez, hein, je parle du pays, de grandes manifestations actuellement, un peu moins de deux semaines après la mort d'une jeune femme, arrêtée à cause de la manière dont elle était habillée. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang. Hier, les joueurs iraniens, les joueurs de la team Melli, tel qu'on la surnomme, portait une parka noire quand a été joué l'hymne de leur pays, une parka, une doudoune, un manteau qui permettait de cacher leur maillot. Et la vedette de l'équipe, buteur hier d'ailleurs contre les Lions de la Teranga, Sardar Azmoun, attaquant du Bayer Leverkusen, avait critiqué sur les réseaux sociaux la répression des manifestations par les autorités de son pays. Le commentaire a été supprimé, il a depuis présenté ses excuses. En tout cas, on sent qu'il y a un contexte autour de cette équipe qui, dans un autre genre, si je puis dire, affrontera les États-Unis dans le cadre du Mondial. C'est chargé d'un point de vue extra-sportif du côté de cette équipe iranienne. Patrick Juillard, comment vous voyez un petit peu ce qui se passe autour de cette équipe iranienne? On ne sait pas forcément si, avec leur parka noir, les joueurs, ça n'a pas été explicité, soutenaient le mouvement de protestation au sein de leur pays, mais on s'en doute fortement.
Ben, Ils ont revêtu cette parka noire pour couvrir les couleurs du pays et l'emblème national afin de montrer leur désapprobation et se dissocier de la politique de répression actuelle. C'est assez clair, ça a été expliqué par Azmoum ou Taremi ensuite ou avant ce match. La politique s'est un peu invitée au cours de ce rassemblement en Autriche. Moi, je trouve que c'est très fort et très courageux. Si on considère le contexte de ce régime très autoritaire iranien, c'est autre chose que d'enlever une bouteille de Coca-Cola ou de trouver que KFC n'est pas en accord avec ses valeurs. Là, c'est des joueurs qui risquent tout simplement, parce qu'ils se mettent en contravention avec le règlement intérieur de la sélection, ils risquent de ne plus jamais être appelés en sélection ou à tout le moins de perdre leur place pour la Coupe du Monde. Donc, c'est ce qu'on appelle faire un acte très fort de courage. Donc moi, je les félicite. Quand on entend des ministres des sports occidentaux dire aux joueurs « Bon, il vaudrait mieux pas trop dire ce que vous pensiez », bah là, c'est pas la même cause, c'est pas le même contexte. Je pense que c'est plus urgent, en effet, que pour un Iranien que les réalités du Qatar pour un Français. Ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Ça concerne leurs sœurs, leurs mères et les femmes de leur famille. Et moi, je trouve que c'est très fort. Je trouve que c'est un acte de bravoure, en fait. Sachant qu'en plus, ils ont bien joué et défendu ensuite les couleurs, mais sur le terrain. Et Azmoum, le premier, en marquant après être entré en jeu. Donc,
exactement, il était
vraiment chapeau à eux et je les soutiens de tout mon cœur.
Et vous faisiez allusion donc au contexte français. Effectivement, les pressions qui peuvent être mises, notamment par des ONG, sur les joueurs français ou les encadrants ou les dirigeants de la Fédération française de football pour prendre position sur le non-respect, notamment des droits des travailleurs au Qatar, pays du prochain mondial. Nabil Djellit, c'est vrai qu'il y a un questionnement en France sur est-ce que les joueurs de foot, c'est leur rôle de s'engager. La ministre des Sports, de manière, pour certains, un peu condescendante, expliquer que non. Oui. Vous en pensez quoi, vous ?
Moi, j'en pense qu'il faut faire attention au mépris de classe, parce qu'on a l'impression que les joueurs sont parfois instrumentalisés, qu'on ouvre des débats sans culpabiliser les gens. Je suis pour, en revanche, qu'on fasse la leçon et qu'on utilise aussi le football, parce que, pour le coup, on a l'impression que ce n'est pas une matière noble et que, pour le coup, on peut s'en servir parfois à des fonds électoraliste, parce que c'est un fonds de commerce qui est parfois porteur selon les séquences politiques et les tendances et les valeurs qui sont défendues. Oui, ça me dérange. Mais ouvrir le débat et faire intervenir des footballeurs en tant que citoyens, mais de leur propre recherche et selon leur propre arbitre, moi, ça me pose pas de problème. Un footballeur, c'est avant tout un humain, un citoyen, et il a le droit aussi de prôner, de défendre des valeurs. Donc ça me choque pas. En revanche, reprocher aux footballeurs de ne pas se positionner, reprocher aux gens de regarder la Coupe du Monde parce que des décisions politiques en amont n'ont pas été ce qu'elles devaient être, ça par contre, moi, franchement, c'est le bal des faux culs.
Voilà. Allez, on termine ce rapide tour de table. Franck Simon, vous êtes quelqu'un qui défend quelque part la dignité du footballeur qui est parfois un peu méprisé sur la place publique. Vous en pensez quoi de cette question épineuse de l'engagement des sportifs, donc là on a parlé des Français, l'Iran, c'est des contextes et des cultures différentes. Votre avis, rapidement, cette question
Déjà, Patrick a bien recontextualisé, donc on a bien compris de quoi il s'agissait. Il a émis son opinion et je la partage pleinement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne date pas de maintenant que les joueurs en club ou en sélection ont été instrumentalisés depuis bien longtemps, les joueurs d'équipe nationale. Voilà, pour défendre, pour faire la promotion, la propagande de certaines politiques. Ça a toujours été le cas. Qu'aujourd'hui, il y a des voix comme ça qui s'élèvent. Effectivement, ils font preuve de courage. On sait que ça va les mettre dans la difficulté.
Leur famille aussi, on l'oublie hein, sur place. Hein, parce que ce n'est pas que leur voix qu'ils portent à ce moment-là.
Oui, mais ce n'est pas une nouveauté. Avant, en revanche, Hugo, on avait l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait des joueurs qui étaient là pour qui étaient les emblèmes en fait, d'un régime politique qui les défendait becs et ongles. Et puis parfois, je parle dans le cas des
alors
Européens.
Encore défendants régulièrement.
Pas toujours, parce qu'ils étaient aussi. Ils défendaient parfois des clubs liés d'une façon ou d'une autre à l'autorité. Je pense notamment à l'Europe avant la chute du mur de Berlin et donc tout le bloc de l'Est. Et puis les pays qui étaient proches de ce bloc. Aujourd'hui, voilà, c'est en train de se fendiller et tant mieux. On espère qu'il y aura beaucoup plus de voix parce que c'est allé vers plus de liberté de conscience, de liberté individuelle, de liberté d'expression. Et voilà, je pense que ce n'est qu'un début, tout simplement.
C'est Gadiello, monsieur le dirigeant ou le passionné, je ne sais à qui je m'adresse, mais cette question de l'engagement, la conscience du footballeur, son instrumentalisation, le cas échéant.
Oui, c'est des êtres humains. Je pense que quand on est dans un pays et qu'on a de la famille, qu'on a des proches qui vivent des choses, à un moment donné, on est amené à oublier son statut ou ses privilèges pour demander que la raison soit là. C'est vrai que ce joueur-là prend des risques, ce groupe de joueurs prend beaucoup de risques parce que c'est des pays où la direction elle est clairement définie et si tu essayes d'aller à l'encontre, tu peux être en difficulté, mais je pense que c'est vraiment beaucoup de courage et beaucoup d'engagement pour les joueurs de football.
Ouais, surtout quand on est allé en Iran, je ne sais pas si certains ici sont allés, j'ai l'occasion d'y aller.
Ça dit non.
Je suis allé, j'accompagnais l'équipe de Mauritanie il y a maintenant à peu près 10 ans. Je peux témoigner de ce que c'est une forme d'absence de liberté pour nous qui étions les invités, puisque j'étais auprès de la délégation. Et c'est très fort ce qu'on a entendu et ce qu'on a lu. J'espère qu'effectivement, il n'y aura pas de.
Il faut espérer que, pour eux, comme le dit la devise rétention. Nationale belge, l'union fasse la force. C'est-à-dire que comme ils ont pris un acte fort ensemble pendant les hymnes, qu'on ne puisse pas les.
Et d'ailleurs, il s'est un peu amendé là-dessus en disant qu'il mettait peut-être en difficulté certains de ses.
Il l'a dit, mais ils ont dû se concerter. Ils étaient en stage, ils ne sont pas tous arrivés la veille du match, ils étaient ensemble. Ils l'ont fait en tout cas. Azmoum n'était pas au coup d'envoi parmi les 11 qui
avaient. Oui, il ne portait pas la parka, il n'était pas titulaire.
Il a pris une position quand même.
Mais lui, il s'est exprimé
très fort parce que c'est un leader de l'équipe. Et moi, je trouve que c'est admirable de leur part. Vraiment, je ne m'y attendais pas et je trouve que ça d'autant plus admirable.
Je sens que ça vous inspire. Donc,
rapidement, s'il y a quand même quelque chose de positif, parce qu'on critique souvent les réseaux sociaux, à juste titre pour certaines choses, c'est que ce type de comportement, il y a 30 ou 40, ça serait joué à huis clos, on n'en saurait rien. Aujourd'hui, le pouvoir iranien, c'est aussi que c'est un sujet qui est sur la place publique et mondiale, en quelque sorte, puisque... Tout le monde en parle. Ça protège aussi en partie les joueurs, éventuellement, de mesures de rétorsion, parce qu'il y a des outils de communication qui font que ça va beaucoup plus vite aussi. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte.
En tout cas, on suivra un petit peu ce qui se passera du côté de la délégation et de l'équipe iranienne au Qatar, et notamment dans le cadre, même si on est sur une problématique différente, du match face aux États-Unis. Et ça nous rappellera les souvenirs de la Coupe du Monde 1998. Il y avait déjà eu un Iran, États-Unis, du côté de Lyon, me semble-t-il.
Le coup de tête génial de Rafinha qui a vu la position avancée d'Aymen Daman. Le Brésil mène 1-0 après 11 minutes. Richarlison qui peut exploiter ce ballon, pas de hors-jeu. Neymar face à Daman.
C'est incroyable cette facilité avec laquelle il réalise ses pénaltys.
Ballon dans l'axe. Richarlison qui garde. Rafinha pour un doublé.
Incroyable.
La reprise de Pedro. Et Pedro qui marque le cinquième but brésilien.
Le Parc des Princes, jardin du Joga Bonito. Hier soir, quelques jours après avoir largement dominé le Ghana, le Brésil en a passé 5 à la Tunisie, toujours en France, mais à Paris cette fois. Des joueurs du PSG passés présents étaient sur le terrain. Certains Neymar, je ne sais pas si vous connaissez, a notamment marqué sur penalty. Thiago Silva, ancien capitaine du club parisien, portait le brassard brésilien dans son ancienne maison, donc le Parc des Princes. Thiago Silva qui est revenu sur un incident qui est survenu au cours de la rencontre, une banane lancée à destination de l'attaquant de la Seleção, Richarlison, auteur d'un doublé, auteur notamment du deuxième but de son équipe. Et c'est dans le cadre de cette célébration qu'il a reçu sa banane, entre guillemets, Richarlison. C'était après l'égalisation tunisienne à un partout. Égalisation signée Montassar Talbi. On écoute Thiago Silva.
C'est difficile de voir des images comme ça. On a essayé de mettre des... Je ne sais pas si c'est passé sur le stade, le vidéo qu'on a préparé par rapport au racisme, mais ça continue à arriver des choses comme ça. Malheureusement, on ne peut rien changer la mentalité des gens. Mais j'espère que les gens puissent être un peu plus conscients que ça ne marche pas. C'est le passé déjà. Maintenant, il faut changer.
Thiago Silva au micro d'Éric Mamrut. Éric Mamrut qui nous a rejoint. Ah. Bonsoir, Éric.
Bonsoir, Hugo. Bonsoir, tout le monde. Vous avez trop fêté les buts brésiliens, apparemment.
Effectivement, oui. on va trouver ça comme excuse. On va trouver ça comme excuse. Éric Mamrut, donc vous étiez au Parc des Princes hier soir. Toujours en ce qui concerne, on va dire, les histoires un peu extra-footballistiques. L'hymne brésilien qui a été sifflé. Alors, cette fois, on n'a pas porté de parka. On l'a sifflé dans le public. Et ça a particulièrement déplu à Marquinhos, un autre chouchou évidemment du Parc des Princes, puisqu'il est l'actuel capitaine du PSG. J'espère que vous me suivez. Un petit mot, Eric, sur ces polémiques qui ont un petit peu pollué les débats d'après match. On ne s'est pas trop arrêté sur le football parce qu'on a beaucoup parlé de ces incidents.
Bah c'est ça, moi, qui me gêne un petit peu, c'est qu'on occulte le match, on occulte toutes les bonnes choses qu'on a vues. Et ça prend la place. Alors, je ne sais pas si c'est l'époque qui veut ça maintenant. Tout de suite... des choses un peu qui font le buzz ou parler. Je ne dis pas que ce sont des choses pas graves, évidemment. Tout acte de racisme est à condamner. Mais déjà, qui a vu cette banane lancée? Moi, je ne l'avais même pas vue.
Patrick, vous étiez au Parc des Princes également.
J'y étais, mais je ne l'ai pas vu. Mais voilà. C'était pas dans le secteur du stade.
Voilà. C'est un petit vu du journaliste.
Moi, je me rappelle de Joseph Antoine Bell. Combien de bananes, malheureusement, quand il était à l'OM, il recevait. Là, c'était vraiment quelque chose d'ignoble, évidemment. Bon. Moi, effectivement, la dernière fois que j'ai vu la Tunisie en France, j'ai une référence mauvaise entre guillemets, c'était en 2005 au Stade Charletti contre la RD Congo. Le match avait dû être arrêté pour envahissement du terrain. Franck Simon s'en souvient.
Il y en a eu plusieurs des matchs à Charletti qui ont terminé.
Qui ont tourné dans n'importe quoi, au cas où Claude Leroy était hors de lui.
Côte d'Ivoire, Sénégal, notamment, il y a quelques années.
Là, c'était la Tunisie.
Pas qu'à Charletti, d'autres stades de région parisienne, quand il y a des sélections africaines.
Voilà, pourtant, c'était un joli stade.
Ils avaient cassé les buts.
Il n'y avait pas de sécurité, Claude Leroy était hors de lui, l'entraîneur de la RDC, Roger Lemaire.
Il y avait envahissement de tribunes aussi, il n'y avait pas eu que le terrain.
C'était n'importe quoi. Donc, en allant au stade, hier au Parc des Princes, je me suis dit, attention... Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a eu? Évidemment, on a eu un sifflet. Bon, ça arrive dans plein d'autres stades. C'est pas bien, évidemment. Est-ce que c'est si
c'est
grave
pas très
que ça?
Disons.
C'est du folklore, le mauvais folklore. Bon, c'est pas bien. On condamne tout ça. On n'aime pas. Évidemment, est-ce que c'est la fin du pétrole? C'est la fin du monde? Non, la banane. Est-ce que c'est... On rappelle que c'est la Tunisie venait d'égaliser. Et dans la foulée, Richarlison y met... Alors que la Tunisie était là, oh là, on revient dans le match, là, on tient tête au Brésil, bloum, à la foulée, à Charlison qui éteint tout. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas la préméditation dans ce jet de banane. Bon, après, peut-être c'en était, c'est un idiot fini. Peut-être que c'est un... On n'a pas la preuve. Déjà, il faut voir le coupable et dire, mais c'est vraiment prémédité, un acte raciste de ta part, ou juste t'as pris ce qui te passait dans la main et tu l'as balancé tellement t'étais en colère parce que t'as tellement monté haut la minute d'avant que là, on te brise ton rêve la minute d'après. Bon, déjà, voilà. Sinon, l'ambiance était belle. Moi, je m'attendais à même plus de choses, des fumigènes de partout, comme
on avait quelques-uns,
mais très
pas
peu.
Beaucoup,
limite, j'étais déçu. Limite, j'étais déçu. Le tifo, je m'attendais à un truc énorme.
C'était pas assez électrique, finalement.
En réalité, oui, je trouve que les médias, et qui souvent ont fait leur compte-rendu sans être au stade, hein, disons-le, ont parlé d'une atmosphère électrique, malsaine...
C'était un vrai match.
Hostile,
c'est vrai, c'était pas
à l'équipe
amical
du Brésil.
Voilà, c'est,
alors, évidemment,
sur le papier, c'est un match amical.
Il y avait
40
000 Tunisiens, donc ça n'allait pas être pro-Brésil, mais... C'était pas Galatasaray, quoi.
Mais alors, justement,
c'était pas la Bombonera.
Patrick ou les autres, c'est vrai que Eric et Patrick soulèvent un point important. Est-ce que c'est pas un signe de l'époque aussi? C'est vrai qu'on s'attend à ce qu'une affiche de gala dans un beau stade neutre, bon, même s'il y a plus de supporters de la Tunisie à Paris que de supporters brésiliens, mais un beau stade habitué aux joutes de Ligue des Champions, on ne s'attend pas à quelque chose de plus aseptisé, c'est-à-dire on applaudit l'hymne brésilien parce que c'est le Grand Brésil, on est content, c'est une fête. Et finalement, là, on a assisté à quelque chose avec aussi de l'engagement sur le terrain. Est-ce que c'est un signe des temps, entre guillemets? On est moins tolérant face à... Je mets de côté l'épisode de la banane, qui là ne peut qu'être condamné, mais l'hymne sifflé, tout ça, est-ce que c'est un signe des temps? Vous en pensez quoi?
Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à cette question. J'ai l'impression que ce n'était pas un match amical pour les
mais
Tunisiens.
Mais ce
n'était
pas un match amical. On prépare la Coupe du Monde, c'est du sérieux. Il y a des joueurs qui veulent prendre leur place. Et...
Mais toutes les équipes qui étaient engagées là durant la semaine, enfin une partie des équipes, il n'y a pas de match amical.
Dernier match
tienne,
de préparation à la Coupe du
bien
Monde.
Bien sûr.
Peut-être c'est pas des matchs qui ont un enjeu direct sur la compétition.
Non, mais, oui, mais dans l'imaginaire,
vous qualifiez pas à l'issue de ce match-là.
Non, mais pour faire direct dans l'imaginaire des Tunisiens à ce moment-là, c'est, pour certains joueurs, c'est le match de leur vie. Alors, famille qui est au stade, c'est le Brésil, c'est des choses qui sont fantasmées. Ils jouent pas un match amical, les Tunisiens.
Ça,
les Brésiliens,
ça,
peut-être.
Mais est-ce que les attentes du public, elles n'ont pas évolué?
Pardon?
Est-ce que ce que pose comme question Eric, est-ce que les attentes du public, d'un certain public, n'ont pas évolué par rapport à ce genre de match?
Moi, je suis
pas
d'accord.
Pas du respect, du fair play,
connaissant chose bien le public maghrébin.
Il n'y a pas que le public maghrébin.
Non, mais là, en l'occurrence,
après,
on a
des publics plus chauds que d'autres.
40 000 Tunisiens, ou ça, franco-tunisiens, hein, dans les tribunes. Je trouve que ça s'est globalement passé dans le calme. Ouais. Même avant match, on voyait des Brésiliens, des Tunisiens attablés au café autour du stade qui discutaient ensemble. Il n'y avait pas d'hostilité. C'était relativement justement
on en a trop fait.
On en a trop fait. On a pris un ou deux.
Moi, je peux vous parler d'autres climats. Hein.
Là, c'est pire. Là.
J'ai suivi le Maroc.
Alors, j'allais vous en parler.
En Espagne.
Maroc, là, Chili, en Espagne.
C'était autre chose. Hein.
Passage forcé, notamment de pas mal de supporters, de gens qui viennent voir le match, des incidents, donc, tout simplement à Barcelone. 25, vous étiez 25, à Barcelone.
Et à Séville, à Barcelone, au stade de l'Espagnol, donc. Stade Cornellà El Prat, il y a 25 000 spectateurs hein, qui sont arrivés, certains même à la dernière minute, puisque les guichets étaient ouverts jusqu'à la dernière minute. Et l'hymne a été sifflé, ce n'est pas surprenant, mais hier soir à Séville, l'hymne n'a pas été sifflé par le public marocain, parce que c'était uniquement un public marocain, à part quelques dizaines de Paraguayens qui étaient là, qui étaient fantastiques d'ailleurs, moi j'étais non loin d'eux. Mais il n'y a pas de surprise en fait. Après, c'est une question d'éducation, je pense, aussi un petit peu. Et que eux, ils sont venus au stade, peu importe que ce soit le Maroc, peu importe que ce soit en Espagne ou ailleurs. Ils sont venus.
Ils ont été sifflés à Oran, mais je pense que c'est un rituel.
Non,
mais
ils peuvent siffler l'Algérie. Hein,
mais ils sifflent sans savoir pourquoi ils sifflent, puisqu'en fait, il n'y a pas d'antagonisme entre les pays concernés. Non, mais c'est pour vous dire.
C'est presque ça. Et l'hymne paraguayen, même hier, a été applaudi. Pour vous dire, l'hymne paraguayen était applaudi. Le public de ces Marocains de Séville était vraiment très, très courtois. Il y avait autant de jeunes. Et pour juste clore la page du match à l'Espagnol de Barcelone, remporté 2-0 contre le Chili, les incidents, et j'étais très proche physiquement parlant de ce qu'on a appelé les incidents, ça a été des gamins qui sont rentrés sur le terrain. Là où Ziyech avait mis à l'amende la défense, Ziyech et Hakimi, par exemple, Bouffal avait mis à l'amende les Chiliens, qui sont allés se rouler sur le terrain. Ils ont fait ce qu'on a vu par ailleurs. Mais il n'y a pas eu de casse extraordinaire. Voilà. Le match, en revanche, a été un match de pré-compétition. J'ai rarement vu un match d'une telle intensité.
Nabil Djellit, on sait, le football maghrébin, c'est votre dada, en tout cas c'est votre spécialité, même on peut le dire comme ça. Non, vous n'êtes pas d'accord?
Je peux dire comme ça.
On peut le dire, vous êtes
quoi,
fier, entre autres, bien sûr.
Non,
mais c'est vrai que il y a peut-être, on parle du récit médiatique, peut-être la loupe un peu grossissante. Bon, est-ce qu'il n'y a pas la crainte qu'il y ait de nouveau des amalgames, des clichés qui naissent de ce type d'histoire, d'incident sur le football maghrébin et ses supporters qui sont parfois caricaturés comme dépassant trop souvent les bornes, notamment en France, quand leur équipe ne joue pas en France,
il y a des supporters allemands qui sont venus à Nice. Pourquoi il n'y a pas de caricature pour eux? Non, mais je pose des questions. Je réponds par une question aussi. Je me dis, personne n'a le monopole de la bêtise, malheureusement. La culture de la violence, sous différentes formes, on la retrouve aussi ailleurs, en Europe du Nord, en Europe de l'Est. Mais vous avez raison de mettre le doigt. Mais ça, c'est des croyances et aussi des perceptions liées aussi à l'histoire de notre pays. Peut-être que certains publics sont perçus d'une autre manière. Mais en gros, c'est quoi? C'est quelques connards qui grillent tout un stade. Voilà. Parce que dans les faits, c'est quoi? Dans les faits, même quand il y a eu le France-Algérie, moi j'étais au France-Algérie 2001, mais il n'y a eu aucun acte de violence. C'est juste un délire qui a mal tourné. Des gamins qui ont envahi un terrain, qui ont couru dans tous les sens. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je trouve que c'est une incivilité. Mais en termes de violence à proprement dit, est-ce qu'il y a des blessés? Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est significatif. En revanche, quand je vois d'autres types de publics ailleurs, avec quand les Russes débarquent à Marseille, notamment, et j'en pense. Je suis pas en train de hiérarchiser, entre guillemets.
Voilà.
Mais je trouve que c'est toujours un peu le raccourci facile qu'on fait par rapport à certains, plus que par rapport à d'autres.
Je voudrais, vous vouliez parler à Séga Diallo. Vu de la Guinée, qu'est-ce que vous pensez de
ce qu'on dit? On a été victime de ça, hein, quand le Malawi
En juin, on a joué un match. On avait 14 000 places autorisées. On a mis les 14 000 se sont écoulées. Et après, le stade a été pris d'assaut parce que le public voulait voir. Et quand le stade n'est pas bien protégé, que le spectateur peut accéder à la fin du match, il y a eu un envahissement du terrain. C'est un phénomène de mimétisme qu'on voit. On l'a vu en Ligue 1, on le voit un peu de gauche à droite. Et ça porte préjudice au spectacle parce que quand on produit un match et qu'on a acheté les droits, on souhaite quand même que les choses se passent du mieux possible.
Mais le football n'est pas qu'un spectacle, donc on est forcément un peu dans une dichotomie. On va avancer.
Ce qui en pâtit, c'est aussi les sélections africaines qui, pour préparer leurs matchs, doivent souvent venir en Europe parce que le contingent des joueurs est en Europe et qui ont de plus en plus de difficultés soit à trouver des stades, soit à des villes qui acceptent de les accueillir parce que finalement, la grande victime de tout ça, c'est les sélections, c'est l'Afrique.
Vous avez exactement raison. On a, au mois de mars, pas eu l'autorisation de la FFF pour faire nos matchs en France, ni à Paris, ni en province.
Et quelle était la raison ?
Simplement comme ça.
Sécurité, logistique.
Voilà. Il y a des matchs qui sont programmés de l'équipe de France.
Ça devient très compliqué, effectivement. Voilà. Ils sont obligés de s'expatrier.
Hier, le match n'était pas classé à haut risque.
Mais c'est
la police de Paris.
Si je vous suis.
Et ça s'est bien passé.
À part l'incident, il n'y a pas eu de.
Non, mais c'est lui qui envoie la banane. Il y a des caméras aujourd'hui. Ok, vous allez le chercher. Ok, vous lui demandez de s'expliquer, puis vous le sanctionnez, et vous le sanctionnez pénalement, et vous le faites savoir.
Il faut le voir, quand même. Bon, il peut être caché.
Non, mais d'accord, c'est possible technologiquement.
Je vous propose que pour la première fois, après environ 26 minutes d'émission, on parle ballon.
Ah, d'accord.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Le bilan pour la Tunisie de cette soirée défaite 5-1, on va écouter, avant d'écouter Eric Mamrut, on va écouter le sélectionneur Jalel Kadri, le sélectionneur des Aigles de Carthage.
On a trouvé des difficultés sur tous les plans, surtout première mi-temps. Mais heureusement pour nous, la deuxième mi-temps, on a rectifié la tâche. Le comportement de l'équipe, et individuellement et collectivement, surtout la deuxième mi-temps, a été impressionnant. Et on a libéré notre jeu, on a essayé toujours. Tous les joueurs, ils ont fourni le maximum d'eux-mêmes. Et ça, c'est à retenir. Il y en a bien sûr des enseignements, des constats qu'il faut retenir après ce match-là.
Jalel Kadri à votre micro. Eric Mamrut, on précise que la Tunisie avait gagné face aux Comores quelques jours plus tôt 1-0. Et on précise aussi qu'elle a évolué à 10 contre 11 pendant pas mal de temps hier contre le Brésil. Forcément, ça n'aide pas.
Oui, alors, au propos de Jalel Kadri, on peut répliquer par ce Thiago Silva qui, en même temps, a dit en zone mixte « Ah, deuxième mi-temps, on a beaucoup moins joué, quoi. En fait, on a mis beaucoup moins d'intensité. On aurait dû aller chercher plus de buts. » Donc, ce sont les Tunisiens qui ont vraiment haussé leur niveau de jeu, les Brésiliens qui se disent « on mène 4-1, on est 11 contre 10, bon, ça va, on y va un peu plus mollo, comme il l'avait fait, je crois, Patrick, face au Ghana, alors qu'il menait déjà 3-0.
Oui, contre le Ghana, il y avait deux salles, deux ambiances, les demi-temps du match.
Voilà, donc, moi, je serais un petit peu inquiet quand même pour...
C'est ce que j'allais vous dire, si les Brésiliens peuvent en mettre 5 sans jouer tout le match.
Voilà, donc il se console avec ce qu'il peut, après Jalel Kadri, mais c'est plutôt inquiétant. Après, c'est vrai que le Brésil, c'est quand même... des grands favoris pour la Coupe du Monde, mais là, il y avait bien deux, trois classes d'écart entre les deux.
Sur les deux matchs, c'est plus inquiétant pour le Ghana qui a joué avec une équipe proche de l'équipe type.
3-0. Hein.
Que pour la Tunisie qui avait fait 8 changements par rapport au match contre les Comores, qui là, l'avait plutôt vu présenter l'équipe type. Alors, ce n'est pas pour chercher des excuses, mais c'est pour expliquer. Le gardien de but, Daman, maintenant, on sait qu'il n'a pas le niveau et qu'il faut mettre Béchir Ben Saïd dans les buts. Il y avait un petit doute dans le staff, j'en avais parlé à Selim Ben Achour après le match contre les Comores. Je lui avais dit, c'est Ben Saïd pour la Coupe du Monde. Il m'avait dit, c'est pas sûr, on va tester Daman. Je crois que...
Les buts brésiliens sont beaux.
Ils sont beaux. Le premier but, le gardien est trop avancé. Le quatrième, il bloque pas son côté fermé, il prend un poteau rentrant. Donc ça, vrai gardien de niveau international prend pas ses buts.
Enfin, que Ben Saïd soit meilleur que Daman, on le sait depuis la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, mais ça doit être pris en compte dans l'analyse. Après,
d'accord.
On a un arbitre français qui a arbitré ce match, M. Buquet, donc qui a arbitré comme si c'était un match de Ligue 1.
Avec un carton
rouge. Et qui a mis un carton rouge dans un amical pour un croche-pied à un joueur.
Dylan
qui, en plus, avait déjà un premier jaune, mais il ne lui a pas mis un deuxième jaune, il lui a mis un rouge direct. Sans doute qu'il avait oublié qu'il avait déjà un jaune, ou peut-être qu'il a pété un plomb. Enfin bref,
c'était un peu moche.
Oui, mais j'explique un peu Ouais, alors moi, bien, pour moi, il y a quelques joueurs intéressants dans cette équipe malgré tout. Manta Sartalbi qui a marqué le but, très bon défenseur.
Qui confirme.
Et la paire Skiri Laidouni au milieu a plutôt fait du bon travail dans la marée jaune, bleue, hier soir, la marée brésilienne. Et sur les coups de pied arrêtés, on a vu la relative faiblesse du Brésil sur ces phases de jeu-là, avec quelques coups dangereux pour la Tunisie, dont le but égalisateur.
Mais ils n'ont eu que cette occasion-là. En fait,
et des bons coups de pied bien frappés par Ben Sliman, j'ai trouvé. Ouais, mais après, c'est ouais. Évidemment, je suis d'accord avec ce que disait Eric précédemment, c'est parce que le Brésil a relâché le pressing que la Tunisie a pu avoir des phases de possession en deuxième mi-temps, évidemment.
Nabil Djellit, inquiet pour les Aigles de Carthage?
Ah, moi, je pense que c'est quasiment l'équipe la plus faible des sélections africaines en Coupe du Monde. Pour moi, les Brésiliens, ils ont arrêté de jouer, ça aurait pu faire 6, 7, 8 ans. Vous pouvez échanger quelques joueurs. Je ne pense pas que le niveau des titulaires soit si éloigné que ça des remplaçants. Ils sont qualifiés contre le Mali grâce à un CSC, ils n'ont rien montré. Bon, le bloc bas, ça marche en Afrique. Quelques projections, bon, quelques coups de patte de temps en temps, un peu de vis, un peu de métier. Mais face à l'équipe de France, face au Danemark, pour moi, ça ne suffira pas, tout simplement. Et j'ai déjà vu des générations tunisiennes beaucoup plus talentueuses. Bon, bah, on peut toujours discuter, hein, mais il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ils sont loin du niveau, tout simplement. Et voilà, je vous le dis comme je le pense.
Ils restaient sur des beaux matchs face au Chili, au Japon, la Kirin Cup qu'ils avaient remporté là, il y a
au mois de juin, quand tout le monde est en vacances.
Le Chili,
je les avais vus à Bamako face au Mali. Alors, parce que j'avais fait le déplacement, j'ai eu l'impression qu'on a volé la qualif au Mali. C'est mon
impression. Non, mais les Tunisiens, ils ont un savoir-faire.
Ce que vient de dire Nabil, ça va donner des regrets à nos amis maliens.
Mais attendez, pour moi, les meilleures équipes africaines, elles ne sont pas en Coupe du Monde, mais ça, on fera une fois une
autre. C'est peut-être un autre débat. Franck Simon, sur la Tunisie. Et même, on peut élargir avec le Ghana, c'est-à-dire qu'on a deux équipes africaines qui sont révélateurs du Brésil, qui se font largement dominer. Est-ce que ça dit quelque chose d'un niveau moyen, général, toutes les équipes ne sont pas les mêmes?
C'est pas les mêmes défauts, en fait, pour moi.
J'ai posé la question à Franck Simon, et vous répondez.
Allez-y, il n'y a pas de problème.
Vas-y, Franck.
Exprimez-vous, messieurs.
Allez-y, Franck.
Non, mais déjà de dire, il suffit de se rappeler les performances des équipes africaines lors des dernières Coupes du Monde. Ce n'est pas une surprise. Que le Ghana, pour moi, je pense qu'ils sont sur le podium, il est tout en bas, ils partagent avec la Tunisie.
Ah, plus
mais
encore,
pour effectivement, comme tu le disais, pour des raisons un petit peu différentes, je n'y crois pas du tout depuis le début. Et avec Nabil, on a l'occasion déjà d'en discuter sur l'élimination du Mali. Effectivement, c'est par cette équipe tunisienne, c'est absolument incroyable. Et il y a un côté injuste.
Mais voilà. C'est le foot, c'est comme ça. Il faut accepter.
Et il y a aussi l'arbitrage.
C'est pour ça que quand tu disais le « on » tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'on leur a... Voilà, le « on », c'est peut-être
l'arbitrage.
Après,
il y en a qui n'ont pas fait le boulot et d'autres qui en ont profité. Et ce n'est pas que le cas de la Tunisie.
Mais la Tunisie, ne performe pas en Coupe du Monde.
Non, la Tunisie ne performe pas, mais...
Y a-t-il un joueur de classe mondiale?
Non, mais évidemment non. Mais au Ghana non plus.
Au Ghana, il y a de la qualité.
Il n'y a pas de joueur de classe mondiale.
Pas de classe mondiale.
Il y a Koudous qui potentiellement l'est peut-être, mais pas encore.
Non, pas encore.
Maintenant, je disais que ce n'est pas les mêmes raisons. La Tunisie, c'est une équipe limitée. Il n'y a pas beaucoup d'individualité, il n'y a pas énormément de qualité, mais il y a un minimum d'organisation.
Ça a toujours
le
été
Ghana, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y aurait des vrais talents, des joueurs rapides qui peuvent faire mal même aux Brésiliens, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'organisation. Il y a par exemple Daniel Amarté qui est toujours titulaire. Je ne sais pas ce que fait le sélectionneur. C'est un mystère.
Donc, si je vous suis, il faudra compter sur le Sénégal, le Maroc éventuellement. Mais
le Maroc est Tunisie, sans Ghana, doute, mais la poule est sûrement trop difficile, malheureusement.
Ouais, pour le Maroc, ça
Mais ils ont des joueurs de classe.
Et la Tunisie, effectivement, ça fait pourtant une des participations depuis 78.
Il n'y a que deux victoires dans son histoire en Coupe du Monde.
Notamment contre le Mexique, 78, la première d'une équipe africaine.
Contre le Panama.
Mais pourquoi pas, les pronostics sont là pour être éventuellement contredits. La Tunisie dans le groupe de la France et de l'Australie et du Danemark au Mondial. On l'a dit, premier match contre le Danemark le 22 novembre. Et Et on salue Eric Mabrut qui a quitté le studio en musique. La musique Silly Nationale de Sekouba Bambino. Vous connaissiez Sega Diallo?
Oui.
C'est connu. Ouais. Pour nous, c'est un peu une sorte d'hymne de la Guinée ouais. dans Radio Foot.
C'est l'un des chansonniers qui, à chaque coup d'Afrique,
fournit le support musical.
Même si aujourd'hui, ça passe mal chez les supporters parce que on a eu une trêve un peu difficile.
On va en parler. Je vous représente. Cette fois, vous n'êtes plus l'ami. Vous êtes le vice-président du CONOR de la Fédération guinéenne de football. Ce qui ne vous empêche pas d'être un ami, évidemment. Alors, à la question comment va le Sili, vous avez déjà répondu. La trêve internationale ne s'est pas passée comme vous le désiriez, j'imagine. Avec deux défaites, 1-0 à Oran contre l'Algérie, vous y faisiez allusion. Et puis 3-1 contre la Côte d'Ivoire. Hier, Naby Keïta n'était pas là, on précise, pour les gens qui se demandent car il est blessé, on n'a pas pu l'aligner. Cette trêve internationale, rapidement, déception ou du positif à retenir?
Oui, c'est une déception de perdre deux rencontres, même si c'est face à des adversaires dans notre niveau, évidemment. Mais on est dans une phase de reconstruction. À la CAN, je l'avais dit sur le plateau de Radio Foot également, on est en train de remettre des choses en place. Maintenant, en matière de football africain, le temps court est le plus important, hein. Même si vous avez besoin de temps long pour remettre des projets en place, restructurer les choses, le public, lui, il attend des victoires. Mais dans le travail qui est celui de Kaba et du Conor, c'est un projet. On essaye d'aller chercher de jeunes joueurs. On a découvert hier un gamin, un latéral de 18 ans, Ibrahima Diakité. Personne ne le connaissait. Il a été sélectionné. C'est sa première sélection.
Il joue où?
Il joue à Reims.
D'accord,
il n'est même pas encore professionnel. Là, il va le passer. Donc, l'objectif pour nous, c'est de retrouver une certaine base avec une base de joueurs assez importante et que l'entraîneur donne quand même une autre philosophie. Ces dernières années, on avait beaucoup de frustration parce qu'on a, sur les éliminatoires du Mondial, on fait quand même troisième sur quatre hein, dans une poule relativement... à notre portée, où le Maroc s'est baladé, mais bon, on reviendra là-dessus.
Le Maroc qui jouait tout à
généreuse,
domicile.
Généreuse, qui joue tous les matchs à domicile pour se qualifier à la Coupe du Monde. Je ne remets pas en cause leur générosité.
Refermons la parole. Voilà. Parce qu'ils vous ont aussi beaucoup accueilli.
Oui, oui, non, c'est un pays ami, mais évidemment, mais dans le cadre de la compétition, ça, c'est des choses qui ont du mal à passer.
Ça fausse un peu l'équité. Quoi.
Voilà, l'esprit du journaliste est toujours en moi, même si aujourd'hui je suis un officiel.
Mais c'est bien de le dire.
Oui.
Ouais. Mais Diawara, vous en parliez.
Oui.
Diallo, sélectionneur, vous avez misé sur la continuité, même si bon, contractuellement, il y a eu des temps d'interruption, mais c'était plus des modalités.
Dans le cadre
de
la procédure, oui, il a un contrat de 2 ans, 4 avec une évaluation au bout de 2 ans. Et l'objectif,
donc, le long terme,
c'est
quand même, enfin, plutôt, ou le moyen terme.
Oui, c'est le moyen terme. Voilà. Donc l'objectif, c'est de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. De donner une certaine identité et d'élargir la base de joueurs. Maintenant, on est regardant, mais on sait qu'on est en phase de construction. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Donc, on est un peu indulgent. On essaie de comprendre, même si on est frustré, parce que perdre contre la Côte d'Ivoire, c'est se faire vanner pendant une semaine. C'est comme
une seule
Sénégal.
Semaine.
Oui, oui, non, les Ivoiriens, ils vont.
Ah,
pas
c'est
être
un voisin.
Mais hier, il y a eu une première mi-temps où il a essayé de jeunes nouveaux, venus de différents horizons. Et en deuxième mi-temps, malheureusement, on avait déjà pris 3 buts. On a eu une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie avec le retour dans le cœur du jeu de Moriba Kuruma, formé à Barcelone, qui est à Valence,
oui,
qui appartient à Leipzig. Donc voilà, il y a des choses qui se font et nous, on est obligés d'avoir une certaine cohérence. Le manque de stabilité en Afrique fait qu'il n'y a aucun projet qui arrive. Quand quelqu'un est désigné, il faut le laisser mettre en place son
projet. D'ailleurs, vous aviez changé de sélectionneur avant la CAN.
Oui, oui, bien entendu, parce que Didier Six avait des difficultés avec l'ancienne équipe qu'il avait déjà mis de côté. Nous, il fallait qu'on prenne une décision. On est arrivé en décembre. Hein,
Non, mais je pense que c'est positif pour la Guinée de s'étalonner contre des équipes qui ont des attaques fortes.
Et c'est ce que l'on va faire dorénavant. Pour vraiment être une équipe compétitive, il faut jouer
parce
contre
que
des équipes.
Moi, je me souviens, je vous avais suivi à la dernière CAN et le match contre le Zimbabwe a fait beaucoup de mal, à mon avis, parce que c'est avant tout par manque de concentration défensive que l'équipe avait perdu les pédales, alors que l'adversaire était à sa portée. Et je crois que ce match, ensuite, a mis un peu le doute dans la tête, alors que le début était pas mal au niveau des résultats. Il faut maintenant peut-être reprendre de la confiance, de la solidité. Alors, le talent offensif, la Guinée en a toujours eu. En fait.
Juste rappeler que vous aviez été éliminé en huitième de finale de la dernière CAN par la Gambie. Ouais. Ce qui, même si la Gambie en fait était bien plus forte que ce que beaucoup imaginaient, a pu passer pour, j'imagine, une contre-performance auprès des supporters. Pour les éliminatoires de la prochaine CAN, vous avez déjà joué deux matchs. Une défaite contre l'Égypte, ça c'est pas forcément scandaleux, 1-0.
C'est le match où on a eu le ballon.
Ça, le nul n'aurait pas été volé. Non, voilà.
Et 1-0 contre le Malawi grâce à un certain Nabi.
Oui, effectivement. Et là, on vient de sortir de deux matchs. On essaye de mettre un pied devant l'autre. On essaye d'être impatient. C'est difficile hein, pour le public. J'étais journaliste, je mettais des cartons, je mettais des coups. Aujourd'hui, je suis dirigeant. J'ai la lucidité de savoir... quelles sont nos forces, mais aussi on a beaucoup de faiblesses.
Vous êtes aussi tributaire, je pense, de la saison que font les leaders. Et on sait que Naby Keïta à Liverpool ne joue pas beaucoup.
Il est blessé.
Il est blessé. Même, il ne jouait pas beaucoup quand il était apte. Et puis, Bayo, ses débuts à Lille sont difficiles. Donc, voilà. Ça n'aide pas l'équipe.
À cause de problèmes extrasportifs.
Voilà. Et c'est pour ça aussi, dans le projet de Kaba, le fait d'aller chercher des jeunes. On est sur Simacan et Bafodé Diakité. Mais d'autres jeunes aussi, binationaux, pour venir renforcer l'équipe. C'est important qu'il y ait une base plus large parce qu'on ne peut pas compter que sur deux, trois joueurs.
Faut pas être
une équipe nationale, ce n'est pas deux, trois joueurs, c'est un ensemble de joueurs. Donc après, il y a l'ensemble derrière, le championnat, la formation, et puis voilà. Donc tout ça, c'est dans le temps long, mais dans le temps court, il y a des matchs tout le temps. On prépare mars avec la double confrontation face à l'Éthiopie qui va être déterminante pour la suite des éliminatoires.
Et est-ce que vous avez prévu des matchs amicaux avant en novembre?
On a été sollicité. On pourrait se déplacer soit au Qatar, soit en Europe pour jouer avec des équipes.
Au Qatar, avant la Coupe du Monde?
Oui.
Servir de sparring partner.
Voilà.
D'accord. Bon, ça peut être intéressant.
Ça, c'est très bon,
ça vous permettrait, je dis ça sans me moquer, de goûter un petit peu à l'ambiance du mondial. On espère qu'un jour, la Guinée aura la chance d'être...
Le prochain mondial, l'objectif, c'est d'avoir une équipe pour 2025 et ensuite 2026.
Donc, c'est un objectif clairement assumé, d'avoir Naby Keïta, capitaine du Sili.
Ce que le Togo a fait, la Guinée,
bien sûr, un autre, mais...
Le projet, il ne peut pas reposer sur une personne, mais aujourd'hui, c'est notre leader, c'est le capitaine.
Mais rappelez que vous avez eu constamment, finalement, ces derniers temps, des joueurs de classe mondiale, et pas forcément les résultats qui ont
suivi.
Oui,
parce que un seul joueur ne peut pas. Aujourd'hui, Mahrez, il est bon, mais il a beaucoup d'éléments autour de lui qui peuvent l'aider à porter cette équipe, même s'il est le leader technique.
Moi, je les ai vus, la Guinée, contre l'Algérie. Donc, l'Algérie a gagné 1-0. À Oran, moi je trouve que c'est une équipe qui a une vraie marge de progression et j'espère surtout qu'ils vont, comme vous l'avez dit à juste titre, ces gars, laisser du temps aux sélectionneurs, pas être dans la dictature du résultat. Et franchement, face aux Algériens, s'il y avait eu un peu plus de réalisme, c'est ce qui vous manque, je pense, parfois, un peu plus de réalisme offensif. Bon, bah, la Guinée, ils auraient pu très bien repartir d'un match nul d'Algérie. Donc voilà, après, la qualité, elle existe. Diakabi aussi qui a rejoint cette sélection.
Il y a un leader.
J'ai vu que c'était plutôt.
C'est Oro Girassi, Diakabi. Ouais.
Et ça fait du bien derrière.
Oui, donc, et Amadou Diawara.
Donc ce qu'il faut là, c'est se qualifier à la CAN déjà dans un premier temps. Ouais.
Alors, c'est l'objectif.
Je vais vous proposer, ces gars et tous les amis de Radio Foot, d'opérer comme ça une mini conférence de rédaction, comme on dit dans le jargon, en direct. Là, on est à quelques minutes finalement de la fin de l'émission. Il faut faire un choix, voilà, croiser des chemins. Je vous ai parlé des résultats de la Ligue des Nations tout à l'heure. Ah, oui. On peut les remettre à demain et poursuivre notre discussion sur le football guinéen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant et passionnant. On a quelques minutes, comme ça, on peut s'étaler tranquillement, mon cher Franck Simon. On ne vous a pas entendu parler du Sili. Vous connaissez bien Séga Diallo, mais vous savez parler franchement de ce que vous voyez, de ce que vous constatez.
Ça fait 30 ans, ça fait depuis feu Serge Deves que je suis le Sili national. À l'époque, il était avec le directeur technique national, Chérif Souleymane. J'ai toujours été très proche du Sili et ma tristesse était de voir déjà à l'époque, en 91, un effectif constellé de joueurs de talent et peu importe où ils jouaient, hein, parfois dans des clubs amateurs ou tout juste, enfin pas très haut niveau. Et je me disais, mais comment cette équipe avec autant de talent donne autant de fil à retordre à tout le monde, mais ne gagne pas. C'était ma tristesse, quoi. J'attendais beaucoup déjà en 94. Bref, ce football guinéen, il bénéficie aussi d'un club un petit peu locomotive, mais ça ne suffit pas.
Le Roya.
Oui, le Roya. Il y a des initiatives de part et d'autre, etc. Mais le fait, comment je fais confiance à Kaba. Je l'ai
Kaba
côtoyé. Le sélectionneur national, je l'ai un peu côtoyé. Donc, du coup, comme Nab, le côtoie. On sait qu'il est de toute façon, toujours, il l'était déjà avant, à scruter les jeunes joueurs. Ça, on le savait. Donc, du coup, ben, c'est bien qu'aujourd'hui, il en fasse profiter pleinement le Sili. Et je pense que c'est devant vous, quoi. Le meilleur est à venir.
Il s'est fait entourer de très bons techniciens, notamment un Algérien à la vidéo, Amin Abès, qui était à City Arsenal. Qui avec
c'est
nous,
pas rien. C'est pas rien.
Avec Charlie Paquillet, donc un staff.
La clé, c'est aussi de professionnaliser la sélection.
Séga Diallo, je suis obligé quand même d'avancer sur cette discussion concernant le football guinéen et d'évoquer un autre sujet épineux qui est moins porté uniquement sur le Sili national. Je voudrais vous parler de la CAN 2025, qui officiellement est toujours celle que va organiser la Guinée. Ça date de 2014, cette attribution. À l'époque, on était à 16 équipes, maintenant on est à 24. Il y a eu cet été des rumeurs, des informations qui ont circulé concernant une éventuelle un glissement peut-être, pas forcément 2025 pour la Guinée, peut-être un peu plus tard. Il y a eu une visite d'inspection également de la CAF, vous me dites si je me trompe, fin août. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le chef de l'État également, le chef de l'État guinéen également, affirmé qu'il y aurait bien la CAN en 2025 en Guinée. Vous êtes toujours sur cette ligne?
C'est toujours la ligne édictée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le gouvernement est mobilisé, ils ont pris un décret pour en faire une cause nationale, qui veut dire prioritaire. Il y a des travaux en cours. La Guinée et la CAF sont des partenaires sur l'organisation de la CAN. La CAN appartient à la CAF, bien entendu, mais aujourd'hui, légalement, elle appartient à la Guinée. Il y a un cahier de charge qui est assez clair dans ses attributions, même si ce cahier de charge que la Guinée a obtenu, c'est celui des 16 équipes.
C'est ça, et là, c'est que vous avez obtenu presque une CAN
Mais évidemment, comme le Cameroun, dans le process, ouais. Voilà, il y a des périodes, il y a des inspections et aussi il y a des périodes incompressibles. Et pour l'instant, la Guinée a le temps et va essayer d'imposer sa dynamique.
Mais c'est énorme, une CAN à 24, si je puis me permettre.
La CAF est venue à Conakry, ils n'ont pas tenu ces propos que vous avez tenus. Mathurin Sakus a estimé que la CAN était avec la Guinée.
J'ai dit que c'est des informations qui ont été relayées
par les médias.
Je n'ai pas dit qu'elles étaient officielles.
Je sais que ça vient beaucoup d'Algérie et du Nigeria, mais ce qui est certain aujourd'hui, la Guinée a sa CAN et elle fait les travaux pour...
Vous serez bienvenu chez nous, il n'y a aucun souci.
Je suis neutre totalement, mais je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Premièrement, la CAF a déplacé la CAN qui était prévue en été en Côte d'Ivoire en période hivernale.
Donc on est passé de 2023 à 2024.
Étant donné que la Guinée est dans la même zone géographique et subit les mêmes précipitations, pourquoi la CAN guinéenne donc 2025, n'a pas, elle aussi, été déplacée? Est-ce que ça ne signifie pas...
La CAN 2025 n'a pas été fixée. La date se fixe après celle d'avant.
C'est un petit peu problématique quand même, parce que pour savoir où on va quand on navigue, il faut avoir une idée. Hein. Si on navigue à vue, c'est compliqué.
Ça risque d'être plutôt début 2026.
C'est gars.
Et ensuite, il y a un problème aussi, je pense... de temps, c'est-à-dire que la Guinée puisse un jour organiser une CAN, j'en doute pas, mais en si peu de temps, en partant de là où elle part,
mais
ça paraît quand même très compliqué.
Le problème pour nous, tout. Les Guinéens, c'est que cette volonté de penser que nous ne sommes pas capables de faire.
Non, j'ai pas dit que vous n'étiez pas capable. Je vous dis que le temps est quand même.
Allez, le mot de la fin pour vous, c'est une vingtaine de secondes. Juste, oui ou non, donc CAN 2025.
La Guinée a sa CAN.
Ou peut-être début 2026 si on la décale.
En partenariat avec la CAF.
On a rendez-vous
Monsieur
là-bas.
Monsieur Motsepe arrive vendredi. Il y aura des discussions, mais je vais vous dire une chose.
En tout cas, on sera content de venir la couvrir.
Les Guinéens sont mobilisés à organiser leur CAN.
On vous le souhaite.
Tout se décidera avec l'accord des autorités guinéennes.
Merci Séga Diallo, merci Franck Simon, merci Nabil Djellit.
Merci
Patrick Juillard, Radio Foot. Reviens demain, excellente soirée sur RFI.